Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast de 20 minutes. Aujourd'hui, notre rendez-vous, tout s'explique avec le dessinateur graphiste Simon Francard, créateur des Petites Luxures. Ce projet commencé sur Instagram a depuis pris de nombreuses et nombreuses formes. Et un nouveau livre, le Diascope Petites Luxures, est sorti récemment aux éditions Ebec. C'est un livre-objet où on découvre l'essence de l'œuvre de Simon Francard, des lignes noires, du vide, du blanc, et la découverte, ou plutôt la suggestion, d'une histoire érotico-poétique. Comment créer un dessin intime érotique? C'est quoi la différence avec la pornographie? Comment on interroge les normes? On en parle avec Simon Francard. Première question, pourquoi ce nom de livre, Diascope, ça veut dire quoi?
C'est marrant parce qu'autour du nom, il y a une histoire un peu personnelle. Parce qu'on a cherché avec Marie, mon éditrice, plusieurs idées. Il se trouve que mon père est à la retraite, mais il était professeur de français, latin, grec. Et il adore chercher justement comme ça dans l'étymologie des mots, essayer de créer une étymologie compréhensible. Et à la fin, lui m'avait proposé le duo Diascope, parce qu'il y avait ce côté, donc duo de Dias et au travers, et Scope, regarder au travers. Quand on cherche sur Internet, le Diascope, c'est parfois utilisé pour parler de ces vieux appareils. À l'époque où il n'y avait pas encore de projecteur vidéo, il y avait les rétroprojecteurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ça à la fac et tout, où on mettait un film transparent et il y avait un prisme qui renvoyait l'image au mur. Et du coup, effectivement, ça c'est un terme, heureusement qu'il est très peu employé, mais visiblement, cet appareil-là pouvait se faire appeler le Diascope.
Pourquoi cette forme, donc de deux plans, utiliser son œil pour voir ce qu'il y a dans le trou?
J'adore l'exercice de style d'imposer quelque chose, comme j'ai été graphiste longtemps, où il y a toujours une contrainte, où on a un brief, là c'était qu'est-ce que je peux représenter avec ça, sans que ça bouge jamais d'endroit, toujours le rond au même endroit, et à partir de là, j'ai fait ce que j'adore faire d'habitude, c'est rajouter le petit truc de piment rigolo, de rajouter un petit truc un peu cul dedans, et voilà quoi.
Qu'est-ce que ce dessin érotique ou dessin intime par rapport au dessin pornographique?
Ah, c'est compliqué, c'est vrai que...
C'est pour ça qu'on est là.
On m'a souvent dit dessin érotique parce que c'est le terme générique. Honnêtement, les scènes que je représente, elles sont souvent plus explicites que de l'érotisme, on va dire.
Et alors, c'est un dessin pornographique?
Ben, justement, pour moi, pas vraiment. C'est ce que j'essaye de fuir parce que la pornographie, c'est quand on montre tout, ça laisse aucune place à l'imaginaire et à l'intellect. C'est important que la partie un peu excitante, entre guillemets, de mes dessins, ça soit les spectateurs qui se la fassent eux-mêmes en regardant le dessin et pas en imaginant ce qu'il y a autour du dessin et pas juste le dessin lui-même, quoi. Sinon, voilà, après...
Mais il peut y avoir un dessin pornographique.
C'est vrai que sur mon compte Instagram, il y a des scènes qui, on imagine la même en photo, on referme tout de suite la fenêtre en disant « Mon Dieu, quelle horreur !» À force, vu que je produis beaucoup de dessins, mis les deux accents, c'est-à-dire qu'à la fois la scène était explicite et en plus mon dessin, il représentait les parties les plus explicites, entre guillemets, on me l'a très vite reproché parce que ça devenait premier degré, en fait.
Ah, on l'a reproché, donc c'est le public qui a reproché ou il y a eu une censure, je ne sais pas, moi, Instagram.
J'ai déjà eu des censures et tout, mais heureusement, maintenant, plus trop, je touche du bois, peut-être parce que je me calme. Mais après, je me suis fait tacler par des gens en commentaire en disant que ça devenait porno, alors qu'en fait, j'avais déjà fait des images pires avant.
Donc, c'est la réception par le public.
La réception, mais en même temps, ils avaient raison, je pense, parce que dessin trop marqué sur certaines parties du corps et la scène un peu trash, ça devenait effectivement ce que je voulais pas. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est qu'on puisse regarder mes dessins sans être choqué et après coup se dire « Ah oui, mais quand même, là, ils sont trois dans le lit et ils font ça. »
Mais c'est hyper délicat parce que le franchissement du choquant, c'est tellement personnel.
Ah ben complètement. Hein, et je le vois d'ailleurs, si je fais deux mecs qui s'embrassent, ah ben, il y a plein de gens qui vont me mettre des commentaires dégueulasses en dessous. Alors que si je fais le même avec deux nanas, ben, ça sera les premiers à applaudir. Donc, je trouve ça... à la fois hyper énervant et déroutant, et puis après c'est un cercle vicieux, parce que par exemple le premier livre, on m'a reproché de pas, il n'y a pas d'histoire homosexuelle avec deux hommes dans le premier livre, mais c'est parce qu'en fait sur les 1000 histoires qu'on m'a envoyées, j'en ai reçu, mais vraiment véridiquement, une seule de deux hommes. Sur le millier de contributions, j'avais presque trois quarts de femmes, et sur ces trois quarts de femmes, il y avait pas loin d'un tiers de femmes de lesbiennes en fait.
Tu l'attribues à quoi, que ce soit plutôt des femmes, ton lectorat?
Je sais pas. Alors, d'un côté, ça me rassure parce que quand j'ai lancé ce truc-là, enfin, je suis vraiment tombé dedans par hasard. C'est-à-dire que j'avais fait ces dessins sans savoir que ça allait être un projet. Même, je l'ai posté sur mon Instagram personnel au départ. Au bout d'un moment, quand j'ai vu que je en produisais plein, je me suis dit, mes sœurs n'ont peut-être pas envie de voir des dessins. Donc, j'ai créé un... j'avais même pas choisi le nom, je voulais l'appeler Luxure, et puis ça existait déjà. Du coup, j'ai choisi Petite Luxure, mais c'est vraiment, j'étais devant le formulaire d'inscription d'Instagram, quoi. Donc, ce qui fait que j'avais pas calculé, mais quand j'ai vu que ça devenait quelque chose, et puis que les gens commencent à venir, que ça s'abonnait, je me suis dit, mon Dieu, si je continue, je vais avoir tous les vieux pervers de Internet et tout. Et en fait, pas du tout. Et on me dit souvent que j'ai une sensibilité féminine dans ma façon de représenter ça et tout, parce que c'est vrai que, comme au début, je ne disais pas du tout qui j'étais, les gens pensaient que j'étais une femme, parce qu'il y a eu 2-3 articles où les gens étaient tellement convaincus que les journalistes avaient tout écrit au féminin, sauf que je n'ai jamais une seule fois écrit une phrase au féminin, je ne me permettrais pas de me déguiser pour aller dans le vestiaire des femmes, ça serait vraiment dégueulasse, quoi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, même quand je suis sorti du bois en disant bah, « en fait, je suis un homme et tout », je ne me montre jamais, moi, sur ma page, mais voilà, on trouve des interviews sur Combini et tout, on voit ma gueule. Il y a pas mal de femmes qui m'ont écrit en disant bah, « je suis super, c'est une bonne surprise finalement de voir que c'est un homme qui fait ça, on a toujours cru que c'était une femme ». J'ai eu aussi l'inverse, hein. Il y a des gens qui sont voilà, qui ont dû penser, parce que je me suis fait draguer par plein de mecs aussi derrière, et qui disaient « ah dis donc, ce que tu dessines c'est ta vie ». Pour vous dire, il y a une fois un gars que je connaissais, de gars, on, en plus on s'était un peu clashé pour une autre histoire qui n'avait rien à voir, il est venu me draguer, et à la fin je lui dis « mais c'est moi, je suis Simon, on s'est croisé il y a 2 mois chez Bidule ». Le mec, il n'a même pas fini la discussion, il s'est désabonné aussitôt. Je pense qu'il s'est senti sale, parce que voilà. Et alors, pourquoi, effectivement, pourquoi il y a plus de femmes qui me suivent, je ne sais pas, parce que voilà, après, moi, j'ai été élevé, j'ai 2 sœurs, j'ai 2 filles en tant que père. Ça serait, pour moi, ça serait hyper présomptueux de dire que j'ai une sensibilité féminine dans ma façon de dessiner le sexe, mais c'est souvent ce qu'on me dit, en tout cas. Et en tout cas, peut-être que dans ce cas-là, c'est la population masculine qui est moins réceptive à ce genre de choses, mais... Peut-être que mes dessins, comme ils demandent un peu un effort, ils ne sont pas directs, je veux dire, quelqu'un est un peu... je pense que c'est aussi pour ça que j'ai très peu de gens dégueulasses et qui vont me faire des propositions dégueu dans mes... sur Instagram, c'est que voilà, les gens qui veulent du crade, ils vont sur Jackie et Michel.
Comment, avec 3 petits traits, on crée l'émotion et le côté « ah, dis donc », qui allume quelque chose?
Ben, ça, je ne sais pas, parce que l'émotion, je l'aperçois chez les gens quand ils la voient. Mais il faut que je reste un peu insensible à mon dessin au moment où je le fais, parce que si jamais ça crée une émotion en moi et que, enfin, voilà, c'est comme quand on prend une guitare, on est qu'on est bourré, on a fumé un joint ou je sais pas quoi, et on pense faire le meilleur morceau du monde, sauf que quand on descend sur terre, on écoute et c'est de la merde. Moi, c'est pareil, quand je fais mon dessin, j'ai un côté, enfin, je me laisse pas envahir par l'émotion de mon dessin entre guillemets, mais en même temps, je me laisse envahir par le plaisir de dessiner, parce que j'adore faire ça. Je sais que j'ai certains éléments quand je les dessine, tout de suite il y a des gens, voilà, tu fais la courbe d'une hanche un peu décalée et tout. Enfin, il y a des choses qui sont très faciles avec 3 traits. Effectivement, on fait une chute de rein, c'est assez facile. Après, est-ce que ça crée une émotion ou pas, en tout cas, ça fait sourire de voir qu'avec 3 traits, on peut imaginer une chute de rein. Après, sur une scène un peu plus explicite ou avec plus d'action et tout, c'est vrai que moi, par exemple, mon logo, je le trouve rigolo, de cette main dans le cœur.
Le logo du compte Instagram.
Mais qui me sert un peu pour tout, sur mes certificats d'authenticité en galerie, sur voilà, quand je bosse avec des marques et tout. Celui-là, j'aime bien parce que c'est rien d'autre qu'une main. On voit rien, sauf qu'en fait, on voit très bien qu'il y a 2 doigts de la main qui se glissent quelque part. Alors, ça peut être dans plein d'endroits différents. Mais du coup, ça pourrait choquer pas mal de monde, alors qu'en fait, c'est juste une main, quoi. Et moi, j'aime bien ce genre de choses, des fois, d'avoir une occultation, entre guillemets, qui va rendre une image. Alors, pour vous dire, même, j'ai un compte, maintenant que je suis à mon compte et tout, j'ai un compte bancaire pro. Et que le jour où j'ai fait ma carte bancaire, ma banque m'a proposé de mettre quelque chose en fond, ben j'ai mis ce logo là en me disant ça va jamais passer, et finalement ça a été validé tout de suite, donc il y a ma carte bleue avec ce truc. Et je trouve ça assez rigolo, c'est de me dire que, alors peut-être qu'au final c'est moi qui ai l'esprit mal placé, je me dis que tout le monde va trouver que cette main est absolument infâme parce qu'on voit bien qu'elle se glisse dans des interstices, alors qu'en fait si ça se trouve c'est... la plupart des gens se disent pas ça, je sais pas, parce que ça peut être quelqu'un qui se gratte l'oreille aussi, hein, mais du coup l'émotion, je trouve qu'elle est rigolote à créer quand c'est par quelque chose d'inattendu, entre guillemets. Moi, je suis super content de voir l'émotion que ça crée chez les gens derrière, et voir des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont drogués avec mes dessins, que des gens qui habitent à 6000 km l'un de l'autre qui s'envoient mes dessins pour se chauffer et tout, je trouve ça génial. Mais j'ai envie de dire, l'émotion, savoir comment l'émotion elle est créée avec 3 traits, je le vois seulement quand les gens me la racontent derrière, quoi. Donc, je ne peux pas le savoir au moment où je le dessine, même si au fur et à mesure, je sais très bien ce qui va marcher ou pas, mais... enfin, même si je me trompe assez régulièrement.
Il y a une chose que j'ai remarquée par rapport à d'autres artistes que j'avais interrogés, notamment Agathe et Lorraine Sorley, le poil. Alors, le poil n'est pas aimé dans notre société et le poil n'est pas souvent représenté dans les dessins érotiques, intimes. Il y a du poil, il y a des toisons pubiennes dans tes dessins. Est-ce que c'est une interrogation de la norme, donc cette haine du poil qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que c'est pas du tout ça et que ma question est stupide?
Ah si, non, mais pour moi, ça a toujours été, parce que voilà, comme je disais... Moi, j'ai grandi dans une famille où on n'a pas du tout parlé de sexualité ni rien. C'était très prudent, c'était pas du tout austère, mais voilà, on était pudique. Ce qui fait que moi, j'ai appris, voilà, dans les harakiri de mon oncle, c'était vraiment ça. Et pour moi, c'était un peu la transgression ultime, c'était voir une toison pubienne. Voilà, il y avait vraiment un côté demi-frontal, même si c'est juste, voilà, partout maintenant, j'en ai plein. Sur mon bureau, j'ai plein de trucs comme ça, des photos des années 20 où. Finalement, c'est juste un nu, sauf qu'effectivement, on a toujours ce petit triangle noir qui dit c'est le sexe d'une femme, même si on le voit pas au final. Donc pour moi, graphiquement, c'est un symbole qui est très important, un triangle noir, mais il y a même très longtemps, quand je travaillais en agence de pub, on était dans un bâtiment un peu brutaliste, c'est une agence qui s'appelle BETC, c'est un ancien bâtiment tout en béton qu'ils ont retapé, et j'avais essayé de trouver plein de façons d'érotiser ce lieu, et typiquement, j'avais fait un petit triangle isocèle noir dans du canson noir, et quand on le mettait dans un angle en béton, ben, on voyait tout de suite avec les volumes, ben, ça faisait une haine avec le pli des cuisses, et puis je trouve ça hyper puissant comme symbole. Et après, oui, je pense que cette haine du poil, c'est vrai que j'ai du mal à la comprendre, moi, parce que c'est encore un truc qui est très, très porno normé, où les nanas doivent avoir un petit cojac entre les cuisses. Moi, je trouve ça presque... Voilà, après, à mon niveau, je trouve ça presque malsain, parce qu'il y a un côté petite fille, puis il est comme les tétons qui deviennent interdits par les réseaux sociaux, je trouve ça incroyable. Du coup, moi, je sais que mes filles, on va devoir leur déconstruire ce qu'elles vont apprendre sur les réseaux en leur disant un téton, c'est pas tabou, et voilà, il y a certains symboles qui, pour moi, sont d'une nature... voilà, c'est Adam et Ève, quoi. Et qu'ils deviennent tabous, alors soit dans des raisons plus sexuelles sur les films porno où elles s'arrachent les poils, et voilà, soit les réseaux sociaux, on n'a plus le droit de montrer un téton de femme. Moi, je trouve ça un peu dangereux, donc moi, j'en mets souvent, parce que déjà, dans mes goûts personnels, je trouve ça tout à fait normal et je trouve ça beau. Et dans mes goûts d'artiste, c'est hyper symbolique et hyper graphique, un triangle noir. Et puis oui, parce que merde, c'est pas parce qu'une nana fait l'amour avec son mec dans sa chambre qu'elle doit se comporter comme une pornstar de bout en bout.
Merci à Simon Francard pour cette interview. Minute Papillon, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver avec son point d'exclamation sur toutes les applis de podcast en ligne. Par exemple, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres plateformes. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.